l'invasion barbare qui avait contraint les Vénitiens à se réfugier dans les îles, il y a eu la puissance des Francs qui était au fond d'ailleurs la dernière vague des barbares. Les Francs ont menacé, la puissance de Charlemagne qui s'établissait, qui fondait l'Europe, a menacé puissamment Venise. Et Venise, à ce moment-là, a commencé un jeu de bascule diplomatique entre l'Empire, d'une part, qui était représenté à sa naissance par Charlemagne, et la mainmise qui la menaçait, et d'autre part, l'empereur de Byzance, qui, plus lointain, pouvait être un utile contrepoids. C'est pourquoi les Vénitiens préférèrent se mettre sous la coupe qui était peu pesante de Byzance, si éloignée, de manière à se prémunir contre l'empereur. Et c'est en 812 que l'accord fut fait entre les Francs et les Byzantins, et qu'il fut reconnu par les Francs que Venise dépendait de Byzance. À ce moment-là, le pouvoir civil va s'installer peu à peu, la population va se grouper, le problème va devenir un problème de multiplicité des îles et un problème de ponts, si on peut dire. Il y a actuellement dans Venise autour de 400 ponts, car Venise était une multiplicité de petits îlots, mais le principal d'entre eux, celui qui fut le premier habité et organisé, c'était le Rialto, le groupement du Rialto, parce que, comme son nom l'indique, la rive haute, le Rialto était moins menacé par les eaux, sortait davantage des eaux, donnait un fond plus solide. Et c'est pourquoi le verrou de Venise, le plus grand pont, c'est ce pont du Rialto qui unit les deux groupements d'îles qui se sont peu à peu agglomérées, coagulées, mais qui restent séparées par le grand S du grand canal. Venise va se situer avec deux centres, le Rialto qui sera le centre de population, puis sur la rive, pour garder l'entrée du grand canal, le Castellum qui donnera le palais des Doges avec Saint-Marc à côté, et la rue qui réunira pour les piétons et pour les cavaliers, car il y a eu pendant longtemps beaucoup de chevaux à Venise, contrairement à ce qu'on peut croire après Musset, pas un cheval qui bouge. Et la rue qui faisait l'union entre le centre de population et le centre de gouvernement, si je peux dire religieux en même temps, c'était la Merceria, le tracé de la Merceria actuelle. Voilà donc le tracé majeur de l'urbanisme vénitien. Mais il y avait un autre problème, c'était l'autre côté de l'eau. Et l'autre côté de l'eau, c'était le passage par un pont. Et la largeur du canal ne permettait pas d'en faire plusieurs. C'est le pont du Rialto qui a rempli ce rôle.
C'est pour cela qu'avant d'arriver au Rialto actuel, construit d'ailleurs par un ingénieur prédestiné à le construire, Antonio da Ponte, il y eut quelques ponts successifs, mais qui étaient des constructions de bois très modestes, et avant lesquels même il n'y avait qu'un transport par barque. En ce moment, il y avait le traghetto, ce qu'on appelle le traghetto, c'est-à-dire le bac, le simple bac, qui va d'une rive à l'autre et qui était capable de transporter des chevaux et des mulets, puisqu'il y en avait. Ouais.
Tout de même, quand nous arrivons, puisque nous voilà dans le bateau et que nous voyons la silhouette un peu trapue, il faut dire, ce n'est pas une merveille. Et le président de Brosse, je crois, le critiquait, ce malheureux pont du Rialto. Mais enfin, il est si émouvant.
Je ne sais pourquoi on s'extasie si fort en parlant de ce pont. On pourrait se contenter de dire qu'il est assez beau. Il est vrai qu'il n'y a qu'une arcade, mais le lieu n'en exige pas davantage, et elle n'est pas plus large qu'une de celles du pont Saint-Esprit. Il est vrai aussi qu'il est tout de marbre blanc et fort large, car il y a dessus trois rues et quatre rangs de boutiques, à la vérité épaisses comme des lames de couteau, et les rues à l'avenant. Tout cela ne fait pas un tiers en sus de la largeur du pont neuf.
Il avait un si mauvais caractère, ce président de Brosse, qui n'était jamais content de rien.
Il était
vraiment le voyageur français type qui vient dans un pays étranger destiné à trouver tout mauvais.
Il était un peu jaloux de Venise, sans doute. Venise a une telle réussite. Mais il y a aussi, cher ami, des Français qui ont la vocation de Venise et qui y viennent dévotieusement, comme nous.
Nous en sommes.
Et bien d'autres, n'est-ce pas? Il est émouvant de penser, quand on approche du pont, qu'il aurait pu être exécuté par les plus grands noms, puisqu'il y a eu des projets de Palladio, des projets de Vignole et des projets de Sansovino. Il y a là l'ombre des plus grands artistes vénitiens qui pèsent. Mais comme vous le dites, c'est l'ingénieur qui a eu la primauté, qui a été choisi. Mais il a eu bien des difficultés avant de réaliser son pont. On l'a combattu beaucoup.
On a combattu son plan d'abord. Ensuite, on a combattu les moyens de construction. On a critiqué même le choix des bois, des pilotis qu'il employait. Il a employé le pin du Carso, qui était plus facile à trouver parce que tout proche, sous la main, on peut dire, sur la rive, sur la terre ferme, que les cèdres qu'il aurait fallu aller chercher en Proche-Orient et qui auraient été très coûteux. Il y a 6000 pilotis sous chaque pile.
Et tout de même, il est avec Florence le souvenir de ces ponts du Moyen-Âge avec trois rues. Enfin, nous sommes un peu emphatiques en disant des rues, mais il y a deux rangées de magasins avec une allée centrale et puis deux passages pour piétons de chaque côté. Ah, nous allons passer sous le pont et là nous allons avoir la sonorité qui chaque fois émeut. Voilà, tout d'un coup le silence du moteur. Nous sommes maintenant sous le pont. Il y a des bruits de Vaporetti qui viennent faire la trompette. Et alors maintenant, nous voilà sous cette voûte, comme sous une voûte d'église, et qui va avec le froid. Le silence vient avec la fraîcheur soudaine de l'eau. Et les résonances sont tout à fait différentes. Nous sortons maintenant de cette chapelle laïque, et nous voilà maintenant devant le Fondaco dei Tedeschi. Ce sont les postes, mais c'est un témoignage des rapports de Venise avec les pays du Nord. On parle toujours de Byzance, mais il y avait tellement de capitaux allemands ici qu'après le grand incendie de 1505, on a pu dresser ce bâtiment énorme qui, au cœur même de Venise, au cœur de la vieille Venise, du Rialto, marquait l'importance des relations avec l'Allemagne. Et puis voilà aussi le plus vieil hôtel, Palazzo d'Amosto. Que de souvenirs, c'est là que les empereurs étaient reçus, Joseph II y est venu, les comtes du Nord. Et c'était d'abord un palais privé, du nom des d'Amosto, qui étaient de grands marins, comme la plupart de ces familles. Il y a même eu Alvise, qui est un explorateur célèbre au XVe siècle.
Qui est parti à la recherche des Indes et qui n'est jamais revenu.
Eh oui,
c'est vrai.
À la différence de Marco Polo.
Et de Marco Polo.
Voilà que déjà le temps de parler. Nous sommes en train de longer à gauche ce qui fut le grand centre de la vie du Rialto. Il fallait bien que les provisions pour manger vinssent au cœur de Venise. Et très vite, au bout du Rialto, c'est le marché qui s'est développé. Alors, la poissonnerie, puisqu'évidemment le poisson était un élément principal de l'alimentation. Et puis, c'est là que venaient débarquer tous les produits de l'Orient. C'était en somme le grand port intérieur de Venise. Il n'est pas étonnant que, à partir du Rialto et de ce vieux centre de Venise, nous ayons toute une suite de palais à la fois byzantins et gothiques. Et nous arrivons ainsi à la Cadoro, qui est un des joyaux de Venise. C'est un ancien bâtiment vénéto-byzantin qui appartenait à la famille Zendo. Et puis Marino Contarini fit la commande du nouveau palais qui avait été conçu par Marco D'Amadio et qui fut réalisé entre 1421 et 1440 environ par Matteo Reverti et surtout par les deux Bons, la fameuse famille des Bons, Giovanni et Bartolomeo Bon.
Et il est intéressant de remarquer combien à la Cadoro s'accomplit en pleine Renaissance cette sorte de transformation dans ce que je voudrais appeler le rococo vénitien. Ce rococo vénitien qui anticipe en somme de 300 ans sur le rococo du reste de l'Europe et qui se caractérise par une sorte de folie introduite dans l'ornementation gothique. La sagesse du gothique ici s'abolit et nous voyons naître une prolifération de formes étranges, de formes capricieuses qui se combinent et qui s'harmonisent d'ailleurs très bien avec des marbres antiques et avec les bas-reliefs byzantins intercalés dans ces marbres antiques. Et ce qui est le plus rococo peut-être, c'est couronnant le palais tout entier, cette sorte de créneau, de frise de créneau, qui n'a plus naturellement aucune finalité militaire, qui ne ressemble plus à des créneaux, qui devient pure ornementation, eh bien, le moment où la forme aboutit à l'ornementation pure, au caprice de l'ornement pour lui-même, c'est déjà le caractère de ce rococo vénitien, il me semble, dont je parlais.
Remarquez-vous, cher ami, d'ailleurs, une chose qui nous frappe tellement à Venise et qu'il faut tout de même souligner, c'est que tous les arts que nous appelons baroques, et que ce soit le gothique flamboyant, et c'est une désignation enfin extrêmement vaste, tous ces arts sont ceux où la forme s'inspire de la nature fluide, et en particulier de l'eau. Et c'est pourquoi Venise a développé, c'est peut-être la raison de ce rococo du gothique dont vous parliez, Venise étant une cité maritime, a développé ce sens de l'eau. Et quand je regarde ces créneaux, vous les appelez des créneaux, et qu'est-ce que c'est? C'est un motif floral, presque.
Merletti, oui.
Oui, quand je regarde ces créneaux, savez-vous à quoi je pense? Eh bien, j'ai certaines photographies où on a étudié à une très grande vitesse d'instantané, on a étudié les éclaboussures d'eau. Eh bien, il est tout à fait étrange que certaines de ces photos viennent se surimpressionner dans ma mémoire sur ce découpage. C'est par une intuition extraordinaire exactement les formes des gouttelettes d'eau qui jaillissent en panache. Et rappelez-vous que vous avez à Saint-Marc aussi le couronnement. Là, ce sont des vagues en mouvement. Ce sont des vagues qui écument, et c'est une des parties qu'on a achevées à Saint-Marc, qui sont aussi de cette période gothique, vous avez encore cette évocation de l'eau.
Et remarquez ces arcades gothiques du premier étage, tellement capricieuses, ce ne sont pas les arcades elles-mêmes, ce sont leurs reflets dans l'eau. Les reflets bougeants, les formes se transforment, les formes se dissolvent et se recomposent. Donc on a l'impression que l'architecte et le sculpteur, au lieu de prendre le dessin des arcades gothiques elles-mêmes, a pris leur reflet et a plaqué ce reflet sur la façade de son palais.
On pourrait vous dire que c'est ce que l'impressionnisme a tellement senti. Et pourquoi est-ce que Monet, par exemple, qui aurait été bien incapable de peindre devant des palais italiens faits de volume simplifié et de stabilité, pourquoi est-ce que Monet a eu sa phase vénitienne et venu peindre les palais vénitiens? C'est parce qu'il y trouvait cette mouvance et parce qu'il y trouvait le jeu des reflets, et c'est lui qui l'a chanté. Mais regardez, quand nous sommes en face de cette façade, nous avons peut-être tout le secret du génie vénitien. Et cette façade est dissymétrique, ce qui déjà est le propre des pays baroques et mouvants. Mais elle comprend deux parties. Il y a une partie qui vient du vieux motif, byzantin de la galerie, et qui se transforme en loggia vénitienne. Il y a une transition continue. Et l'architecture est découpée. Elle est découpée pourquoi? Pour qu'il y ait un jeu continuel qui va du point le plus lumineux au point le plus obscur. Nous avons souvent eu ici évoqué les jeux de l'ombre et de la lumière. Eh bien, dans l'architecture, nous voyons qu'elle est construite tout autant de matière ombre-lumière que de matière pierre. Regardez comme tout est fait pour que le découpage de la pierre constitue une solidité d'ombre, c'est-à-dire de vide, et pour qu'au contraire, la pierre elle-même vienne en saillant, accroche des coulées de lumière, car ce sont des mouvements mouvants, comme les mouvements de l'eau, et alors les arêtes de la pierre avec ses ressauts successifs créent des linéarités lumineuses, et puis tout d'un coup des échos un peu assourdis. Or ça, c'est la partie gauche. Mais la partie droite, au contraire, et par un contraste, va créer des pleins. Et ces pleins, d'ailleurs, occupent moins d'espace que les parties déchiquetées. Il y a là un équilibre, le plein a plus de densité, il compte davantage, il y a là une très grande finesse de l'artiste d'avoir développé une fugue sur les découpages et d'avoir, au contraire, massé les surfaces et les pleins. Mais nous pouvons constater encore une chose dans ces pleins, c'est qu'ici, nous retrouvons le mur, nous retrouvons le plan, nous retrouvons la géométrie dans sa définition de base, qui est justement un plan. Mais regardons-la bien. Les quelques ouvertures créées par leurs cadres, qui sont comme des cadres de tableau, en vérité des cornici, on voit que la lumière est accrochée à nouveau et joue, Et alors la partie plane, car il faut bien qu'elle existe, puisque les ouvertures ici sont réduites, la partie plane est un jeu de couleurs. Et nous retrouvons alors cet enchevêtrement mosaïcal, en quelque sorte, de la pierre avec un gris qui lui-même se module en variation de valeur et où viennent s'encastrer des petits carrés roses. Et cela, c'est la grande tradition également du palais des doges et du jeu des couleurs. Ainsi, nous retrouvons ce que nous avons signalé au passage dans cette petite façade. D'une part, le grand duo de l'ombre et de la lumière avec toutes ces transitions et d'autre part, sur les plans, les modulations de la couleur.
Et c'est un tapis, en somme, qui nous rappelle que dans les palais d'Orient, certains tapis étaient étalés sur le sol, sous les pas des visiteurs, mais les plus beaux étaient accrochés au mur comme éléments décoratifs.
Les Vénitiens continuent à le faire. Aussi. Regardez quand il a fait des régates. Et que vous...
À tous les balcons sont recouverts de tapis, naturellement. Nous l'avions vu chez Carpaccio, nous l'avions vu chez Bellini aussi. Mais là, ce côté tapis, de la partie massive, de la partie fermée, de la partie sans lumière, est très caractéristique et il évoquerait la nuit, il évoquerait l'ombre, si heureusement ces marbres exotiques très lisses, dont certains ont même le poli du jade, n'entretenaient à leur surface un jeu de lumière, un glissement de lueur, en somme qui nie l'obscurité en définitive.
Et la séparation entre les deux, c'est cette bande verticale exquise où deux cordes en quelque sorte, car il y a là une évocation du cordage dans la sinuosité, deux cordes s'entrelacent selon un rythme opposé qui fait coïncider les pleins et les vides.
Et ça pourrait suggérer une comparaison avec l'art manuelin, au fond l'art manuelin du Portugal, qui lui aussi a été fondé sur les choses de la mer, sur le cordage, sur l'encre, sur le sextant. Et nous retrouvons ici les grands peuples marins, les grands peuples de la mer, empruntant naturellement leur thème décoratif à ce qu'il y a de plus fécond et de plus beau et de plus puissant, la mer, naturellement.
Et de plus fluide, et de plus donc fluide. De plus vivant dans le temps.
Venise n'est pas tout entière dans le sublime de son architecture et de sa peinture triomphale. Il existe aussi une Venise mineure, une Venise de Calli resserrée, tortueuse, de Campielli pauvre, de sombres sous-porches, de rives désertes et comme oubliées, de maisonnettes, d'étroites boutiques, d'osterie et d'estaminets, une Venise humble et pathétique, qui ne manque pas de beauté, qui possède même un charme à elle, pourvu qu'elle ne soit pas trop marquée de misère et d'abandon. De la fantaisie de son peuple artiste, cette Venise mineure a reçu, elle aussi, des dons abondants. Ici, un arc de porte délicatement sculpté, là, une margelle de puits en chapiteau, ou bien une fenêtre double, en ogive ou en plein cintre, une corniche dentelée, une cheminée en entonnoir, ou encore une frise, un bas-relief noir et blanc planté dans la sanguine d'une muraille de briques. Elle aussi, enfin, elle recueille le jour et hume l'air de ce ciel unique qu'est le ciel des lagunes. Du reste, les deux villes, la monumentale et l'ordinaire, ne sont pas nettement séparées. Au contraire, elles se continuent et se mêlent. Au pied du Rialto campent les marchés aux verdures et aux poissons, l'Herberia et la Pesqueria, épandant vastement leurs couleurs et leurs odeurs de campagne ou de mer. Tout près de Saint-Marc, d'étranges magasins de vieillerie étalent dans leurs vitrines des carafes poussiéreuses, des chapeaux de forme pelée, des violons sans cordes, des fauteuils à la soie râpée. Pour arriver en marchant à un palais sur le Grand Canal, il faut traverser un dédale de ruelles ténébreuses qu'on dirait creusées dans un immense rocher, comme des couloirs d'antiques prisons. Un peu partout, des choses disparates, qui jurent par leur taille et leur nature, se trouvent sans étonnement l'une à côté de l'autre, est toujours intimement mêlée à la vie des hommes. De sorte que même l'histoire la plus auguste devient, pour les Vénitiens d'aujourd'hui, familière et presque confidentielle. Des enfants et des chats jouent à l'ombre des églises célèbres. Une foule de pigeons gris fer et gris bleu se pose sur les statues des acrotères. Les eaux, en face du palais des doges ou de la Salute, bercent des gondoles liées aux palis et des mouettes assises en cercle de famille. Cette harmonieuse et amoureuse promiscuité de tant d'éléments divers accroît l'émerveillement et l'impression de rêve que Venise jette dans l'âme d'un visiteur sensible dès le premier abord. Oui, Venise est une ville qui ne paraît pas vraie. Même si les cartes géographiques et les manuels d'histoire de l'art nous assurent qu'elle existe, même si nos pieds foulent ses dalles à travers Macerie et Campi dans un bruissement long de pas et de paroles qui ressemble au chant de la mer sur le sable pendant les matinées tranquilles. Diego Valeri.
Et nous n'avons pas pu résister à la tentation de venir saluer les traces de celui qui est le symbole même de cette puissance d'exploration du monde qui se trouvait dans Venise, qui a été sa force et sa vitalité. Quand on débarque, évidemment, on voit cette plaque qui nous indique qu'ici furent les maisons habitées par la famille de Marco Polo, tout près du théâtre de la Malibran, futur bien entendu, qui était établi depuis assez longtemps. Et Marco lui-même a dû dans sa jeunesse connaître cette cour voisine, cette cour du Million, où on voit encore deux arcs byzantino-vénitiens avec ces mouvements de torsade que l'on retrouve d'ailleurs sur la façade de la Cadoro, ces mouvements de torsade qui créent par leurs nœuds successifs des enveloppements de fleurs, d'animaux parfois. Et c'est sans doute sous ces arcs que Marco Polo est passé souvent. Et avec Marco Polo, nous avons vraiment l'évocation de toute cette exploration du monde qui l'a mené jusque à l'Extrême-Orient. On a contesté parfois la valeur de son récit qu'il a écrit ensuite dans la prison de Gênes. Il avait été pris au retour par les ennemis de Venise, qui étaient les Génois. Et dans sa prison de Gênes, il a pu, pendant les quelques années, il a pu dicter le récit de ses voyages. On les a contestés, mais en réalité, plus on va, plus on vérifie le bien fondé de ce qu'il a raconté.
Et puis aussi des fonctions qu'il a exercées. Parce qu'enfin, Marco Polo n'a pas été seulement un voyageur, il n'a pas seulement été un marchand ou un explorateur, il a été aussi un grand diplomate, parce que Venise considérait que chaque citoyen vénitien qui partait à l'étranger devait y exercer son métier, naturellement, mais devait aussi travailler de toutes les façons à la gloire et à l'utilité de la République de Venise. C'est pour ça que Marco Polo a été diplomate, qu'il a eu une grande influence auprès de Kubilai et qu'il a même été le conseiller de Kubilai pendant plusieurs années.
Quand Messire Marco Polo se trouva devant le grand camp au retour de sa mission, il sut lui conter très bien tout ce qui lui était advenu et aussi toutes les merveilles et choses nouvelles qu'il avait vues. Ainsi, il plut beaucoup au grand camp et à ses barons, et qu'ils le reconnurent pour un homme de bon sens et de grande bonté. Ils dirent aussi que si la vie lui était laissée, il deviendrait un homme de grande valeur. Après cette mission, il fut appelé l'ambassadeur du grand camp, et sachez qu'il resta près de lui pendant 17 années. Et pendant tout ce temps, il ne fit rien d'autre que servir le grand camp qui avait tant aimé la relation de sa première ambassade. Et le seigneur lui fit tant d'honneur que les barons en eurent grande envie. Et ce fut la raison qui fit que Messire Marco sut de toutes ces choses plus qu'aucun autre homme en ce monde. »